7 milliards de voisins. Avec Emmanuel Bastide, pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue 7 milliards de voisins et de voisines. Aujourd'hui, les jouets vont-ils disparaître? C'est bientôt Noël. Il faut bien se rendre à l'évidence, les tablettes, les jeux vidéo font une sérieuse concurrence aux jeux de construction et autres jouets sous le sapin de Noël. Alors comment doivent se réinventer les jouets? À quoi sert le jeu dans la vie des enfants? Nous allons en parler avec nos invités Elsa Job-Pijard, bonjour.
Bonjour Emmanuel.
Vous êtes orthophoniste et cofondatrice de l'association Joue, Pense, Parle. Johan Roussel également avec nous, bonjour.
Bonjour.
Vous créez des jeux de société, vous êtes responsable d'une association À l'adresse du jeu qui propose des lieux pour jouer avec des jouets à emprunter. Ça s'appelle des ludothèques et ça peut même se faire à l'extérieur.
Tout à fait, tout à fait. Alors on n'est pas trop axé sur le prêt de jeu, on fait vraiment du jeu sur place principalement, notamment pour favoriser les rencontres, les interactions.
Etc. Voilà, et si on ne peut pas acheter de jouets, eh bien en allant dans des ludothèques, on peut découvrir un univers tout à fait magique avec des jouets. Stéphane Grandadier, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directeur de Tactique France, qui est une filiale d'un groupe finlandais qui propose des jeux de société, des jeux en bois aussi. Vous nous direz ce qu'apporte l'Europe du Nord dans la créativité pour les jouets. Vous travaillez dans le secteur du jouet depuis
25 ans.
Oui, 25 ans. Sacrée expérience. Et dans la série des bonnes idées, on sera également en ligne avec Abdou Touré de l'ONG sénégalaise Social Change Factory, qui vient de lancer pour les fêtes un jeu de connaissances sur l'Afrique et avec un axe très citoyen à pratiquer en famille. Et quant à vous, les voisins et les voisines, dites-nous peut-être quelles traces ont laissé les jouets dans votre enfance et à quoi jouent vos enfants. On attend vos appels au 33 1 84 22 71 71. C'est aussi le numéro de téléphone WhatsApp. Vous pouvez aussi laisser des messages écrits.
Les enfants, descendez.
On va vous emmener au magasin de jouets.
Ah ouais, trop cool. Youpi.
Vous aurez le droit à 2-3 jouets.
Bon, allez Marie, monte dans la poussette.
D'accord.
Allez, c'est parti les enfants. Youhou.
Un enfant qui joue, ce sont, c'est vrai, des rires, des petites lumières qui clignotent dans les yeux. Vous connaissez bien ça, hein, tous les trois. Est-ce qu'aujourd'hui, les goûts et les rêves des enfants ont évolué? Qu'est-ce que vous diriez, Johan?
Ils ont évolué, oui et non. C'est-à-dire que l'enfant va continuer à vouloir jouer, à aimer jouer, à se construire à travers le jeu. Maintenant, les outils... C'est deux choses différentes. L'utilisation du jeu et le jeu, justement, pour simplement le plaisir. Bref, tout ça pour dire que maintenant, effectivement, il a accès à d'autres jeux, notamment, effectivement, je pense qu'on va en parler, aux jeux vidéo, aux tablettes, aux téléphones, qu'il n'y avait pas encore il y a une vingtaine d'années.
Ouais. Et pour vous, Elsa Job, vous diriez que il y a des évolutions très notables, très visibles?
Disons que ce qu'on observe sur le terrain, c'est surtout une perte de temps pour le jeu, finalement, sur le temps libre des enfants.
Au profit de quoi?
Au profit souvent de l'utilisation des jouets interactifs, des tablettes, etc. Mais en tout cas, quand les enfants en ont l'occasion, on observe qu'ils aiment toujours beaucoup jouer. Et quand l'occasion se présente, les enfants aiment ça et c'est même leur véritable travail, on pourrait dire.
Stéphane Grandadier, vous nous disiez avant qu'on commence l'émission pendant le journal, mais le jeu n'est pas propre à l'humanité.
Non, toutes les espèces mammifères jouent, et principalement pendant leur développement, de la naissance à l'âge adulte.
Alors, est-ce que les enfants jouent comme un chien?
Ça peut arriver, on joue avec une balle, non? Il y a même des gens qui sont très bien payés pour ça.
Et sur les évolutions?
Moi, je ne suis pas tout à fait d'accord sur la place du digital et du numérique. Je pense qu'effectivement, ça prend du temps. Mais si on regarde les chiffres, je pense que c'est deux marchés qui se développent en parallèle, en fait. Plus qu'en concurrence l'un et l'autre. Parce que si on prend, par exemple, je vais prendre ma partie que je connais vraiment, le jeu de société. Si on regarde les chiffres de consommation, on va dire en Occident pour l'instant, on voit que par rapport aux années 70, avant l'émergence de tout ce qui était digital, etc., la consommation de jeux de société, en nombre d'unités par enfant, elle était plus faible que dans les années 2000. Donc,
il y a un vrai regain des jeux de société aujourd'hui, très
oui,
clairement.
Oui, et donc je pense que ces deux activités qui se développent
qui
en parallèle.
Qui cohabitent en tout cas.
Après, alors, je rejoins madame qui dit, oui, sur le temps d'activité disponible, je pense aussi qu'il y a l'accélération du rythme de vie des familles.
Eh bien,
qui
oui.
est un gros vecteur peut-être plus que la digitalisation. On va dire.
L'accélération du rythme de vie des familles. Bon, pourtant, les journées ne font toujours que 24 heures. On va demander le point de vue d'une voisine qui nous appelle de Dakar au 33 1 84 22 71 71. C'est toujours le même numéro WhatsApp ou numéro de téléphone fixe. Bonjour Hadi.
Bonjour.
Vous avez trois enfants. Bon, la petite fille de 2 mois, je ne la compte pas pour le moment, hein, pour les jouer, vous êtes d'accord. Mais vos deux garçons de 8 et 4 ans, à quoi jouent-ils aujourd'hui?
Ils jouent au ballon, au foot.
Ouais.
Une petite voiture qu'ils ont, ils montent dessus, à tour de rôle, se pousser, etc. Une trottinette. Mm-hmm. Et ils ont aussi du coloriage. En même temps aussi, un peu de puzzle.
Ouais, des puzzles, d'accord.
Et des puzzles en bois que j'ai parfois, que je peux acquérir parfois dans le marché de friperie.
Oui.
J'en achète parfois, je leur donne. Bon, ils jouent, ils perdent, mais au moins, ça fait réfléchir.
Oui, parce que les puzzles ne sont pas si faciles à trouver à Dakar.
Non, en général, non.
Ouais, assez coûteux, hein, c'est ça.
Peut-être que je ne prenais pas les endroits pour en voir, mais en général, quand je suis au marché, à la friperie, je vois ce genre de jeu que les gens n'achètent pas en général, donc je les achète moins cher.
Ah oui, que les gens n'achètent pas. Et les jeux vidéo, alors?
Ah, les jeux vidéo, il y en a, parce que sur mon smartphone, j'en ai téléchargé. Mais juste à usage éducatif, comme pour le garçon de 8 ans, j'ai téléchargé des jeux où il fait des calculs, arithmétiques, etc. Et pour le petit garçon de 4 ans, lui, ce sont des comptines qu'il aime. Au moins, je télécharge une ou deux comptines.
Des comptines, oui.
Mais quand ils prennent ça en général, et il faut jouer 30 minutes, je reprends. Donc, ce qui fait que le grand garçon, maintenant, il s'amuse à jouer au mot croisé, parce que vraiment, c'est ce qu'il trouve sur mon smartphone de toute façon.
Et donc, c'est 30 minutes, pas plus, hein, c'est chronométré chez vous, Hadi.
Oui, c'est chronométré, parce que j'ai remarqué que quand ils sont avec le smartphone, même quand vous les appelez, ils ne vous répondent pas. Donc, ça tendance à énerver parfois. Ils sont tellement concentrés qu'ils ne...
C'est ça. Donc, c'est pour ça que vous avez chronométré. D'accord. Merci beaucoup, Hadi, de nous avoir appelé. Mohamedou nous appelle de Kinshasa. Bonjour, Mohamedou. Mohamedou, vous êtes bien en ligne avec nous? Oui, Mohamedou.
Voilà.
On vous écoute. Vous avez la parole, Mohamedou, sur les jouets.
Oui, voilà. Vraiment, c'est difficile, vraiment ou quasi impossible, la disparition des jouets physiques ici, chez nous, en Afrique, principalement à Kinshasa. Car tout le monde ne peut pas offrir les jeux vidéo ou numériques à ses enfants, premièrement. Bon, deuxièmement, les jouets physiques, tels que des poupées, voitures et autres, ont un avantage de produire un stimulus direct chez les enfants. Un moyen d'apprentissage avec un contact direct. Donc du sensationnel, quoi.
Oui, c'est
donc
ça.
Donc les enfants aiment ce qui touche, quoi.
Oui.
Voilà. Et nos enfants utilisent des jouets.
Justement, quels jouets sont utilisés? Des jouets qu'on trouve sur le marché, des jouets qui sont fabriqués? Qu'est-ce que vous constatez le plus à Kinshasa?
Bon, pour la plupart, les enfants, ce sont des jouets fabriqués localement.
Oui, comme
fabriqués par eux-mêmes, comme des avions, des poupées, des voitures, à travers des papiers, des bois et autres, qu'eux-mêmes montent en fait. Ils s'adaptent à leur environnement et ils sont tout joyeux, ils jouent.
Ah ouais, voir un enfant jouer, c'est toujours assez magique. Il y a des jeux de société ou pas qui sont inventés sur place, Mohamedou? Des jeux qui se pratiquent à plusieurs, en équipe?
Oui, il y en a.
Vous pensez à quelque chose en particulier, Mohamedou?
Par exemple, du damier.
Oui.
les jeux de dames, hein, tout ça, ouais. Oui.
Qu'on peut fabriquer localement assez facilement aussi.
Oui,
merci beaucoup, Mohamadou.
Avec...
Merci de nous avoir appelé. Alors finalement, à quoi ça sert de jouer? Peut-être que je ne devrais même pas poser cette question-là, Elsa Pijard, non? Vous allez me dire, ça ne sert à rien, justement, non? Peut-être à créer du plaisir uniquement.
Ah, il n'y a pas que la notion de plaisir. Hein. Le jeu est une véritable manière de se construire pour l'enfant. Hein, il découvre son environnement, il découvre les lois physiques des objets, etc. Et j'ai trouvé très, très intéressant le témoignage de notre auditeur parce qu'il me semble que dans l'exemple qu'il donne, le jeu, c'est pas seulement l'objet fini, c'est toute la démarche qui a conduit à créer cet objet. Hein. Parce que dans la notion de jeu, que j'aimerais distinguer dès maintenant, de celle de jouet, c'est-à-dire le jeu n'est pas forcément dépendant d'un objet en lui-même, hein, pas forcément dépendant d'un objet qui a été conçu par quelqu'un d'autre, comme on voit beaucoup aujourd'hui, hein, toutes ces choses qui sont vendues comme étant éducatives, comme étant là pour produire des apprentissages directs, qui peut être quelque chose d'intéressant, mais il ne faut pas oublier que ce qui se joue surtout chez l'enfant qui joue...
Là, vous parlez de l'enfant jusqu'à quel âge vous ciblez le très jeune enfant.
Voilà, je pense qu'il faut garder à l'esprit le bébé, et puis bon, jusqu'au langage à peu près, jusque 2-3 ans, et puis ensuite à partir de 6 ans, hein, c'est-à-dire 5-6 ans, quand l'enfant va entrer, vous voyez, c'est le moment où justement il va entrer dans le langage écrit, parce qu'avant, par ses découvertes, par son environnement, il a pu construire des choses qui lui permettront d'entrer dans ses apprentissages.
C'est ça, mais la durée de vie du jouet dans la vie de l'enfant, quelle est-elle aujourd'hui? Parce qu'on dit beaucoup que l'enfant grandit plus vite qu'avant et délaisse plus tôt les jouets. Vous êtes d'accord avec ça, Yann Roussel et Stéphane Grandadi? Yann Roussel.
Alors, je pense que c'est un problème plutôt de perception et de société. C'est le regard de l'adulte ou le regard de ses pairs qui va faire qu'un enfant va se détourner d'un jouet.
Ouais, si on prend souvent. Des petites voitures, des poupées.
Justement, quand on prend des jouets vraiment ça peut être les Playmobil, mais ça peut être simplement une poupée, l'enfant va souvent s'en dégager à partir du moment où il se dit je passe pour un bébé en utilisant ce jouet. Et donc, c'est l'enfer, c'est les autres. Hein. Vraiment, c'est le regard d'autrui qui fait que les enfants délaissent un jeu. C'est pour ça que nous, à la ludothèque, on se rend compte régulièrement que des enfants qui viennent la première fois vont se diriger vers des jouets, qui leur plaît, et leurs parents vont dire « Oh, mais non, je joue pas à ça, t'es trop grand maintenant. » Donc, ils vont les pousser vers autre chose. Donc, l'enfant, normalement, il va faire comme on lui dit, il n'y a pas de souci.
Parce que le parent se dit « Il faut que le jouet ait un rôle utilitaire éducatif. »
Bien souvent, c'est ça.
Ça, c'est un biais qu'on note, notamment dans la distribution, hein, moi qui suis plutôt du côté fabricant, éditeur, etc. C'est quand on met, par exemple, sur un jeu de société ou un jouet, l'âge minimum requis.
C'est terrible.
Ouais. Par exemple, on va mettre...
À partir de 8 ans.
Ouais, ou 7 plus.
Ouais, 7 plus. Boîte.
Eh bien, ça peut très bien convenir à un enfant qui a 10 ans, par exemple.
Si on était 7 plus, vous ne le vendez pas à des enfants de 10 ans.
Si, on va pouvoir le vendre. Par contre, il y a un biais des parents qui est de dire « Ah ben non, tu ne vas pas acheter un truc, regarde, c'est pour 7 ans. » Toi, t'es plus intelligent que ça, t'as 10 ans, tu vas pas jouer avec un jeu pour 7 ans. Or, il y a des jeux géniaux où on peut mettre 5+, qui sont super à jouer quand on est pré-ado, ado ou même adulte. Et on a ce biais-là. Mais ça, c'est comme disait monsieur, c'est un peu le renvoi du regard des autres.
Oui, on s'inscrit dans une société quand même de performance, quoi. Et peut-être on va proposer ce jouet plus tôt en se disant, s'il le réussit, cet enfant va être un petit peu en avance. Ouais. Hein, il y a une espèce de pression. Moi, il me semble que ce qui est nouveau quand même dans les dernières années, peut-être, je ne sais pas, les 15-20 dernières années, c'est peut-être que la notion de rentabilité s'est invitée dans le jouet, dans le jeu. Hein, c'est-à-dire que en passant notamment par beaucoup d'objets, hein, puisque vous disiez qu'il y a plus de ventes aujourd'hui que dans les années 70, effectivement, je crois qu'il y a beaucoup d'objets, mais ça ne garantit pas qu'il y ait plus de jeux.
On est d'accord. En tout cas, plus de temps pour jouer. Ça, c'est vrai.
Voilà, c'est
ça. Plus
de
temps de jeu. Pour jouer,
ce que vous appelez,
il y a plus d'objets.
Ce que vous appelez jouer, c'est quand l'enfant élabore son scénario, son histoire, que d'ailleurs, il va mélanger les Playmobil qui sont fabriqués pour des époques différentes et des scénarios différents. Il va tout remélanger, tout recréer lui-même, en fait. Hein. C'est ça, l'acte de jouer. On est d'accord.
Il y a bien sûr la notion d'être créateur de son jeu. Hein, là, si on parle en dehors des jeux de société, qui sont aussi très intéressants, mais là, plus pour le respect des règles, etc. C'est autre chose, voilà, c'est plus construit.
Est-ce qu'il y a des jouets mythiques qui se sont effondrés ? Qui ont disparu, la poupée mannequin, célèbre Barbie, c'est en chute libre ou pas ?
C'est en baisse tendancielle. Après, elle a plus de concurrentes que dans les années 80, donc ça explique aussi peut-être cela. Et puis en plus, là par contre, on rejoint ce qu'on disait tout à l'heure sur l'âge auquel se fait la bascule sur vraiment du jouet. Ça se passe à la préadolescence en fait. Hein. C'est au moment de l'entrée au collège, etc. Et autant.
C'est-à-dire au moment de l'entrée au collège, le jouet disparaît.
Non, il disparaît pas, mais c'est le moment où on va se détacher un peu du jouet et on va moins s'autoriser. Et puis c'est le moment aussi où on est plus susceptible au regard des autres. C'est important, hein, ça rejoint ce qu'on disait.
On ne s'autorise plus à jouer à l'entrée du collège. Donc.
C'est valable pour les adultes aussi.
Il ne faut pas être aussi radical.
Mais c'est impressionnant, c'est-à-dire que ça évolue justement. Et c'est là où je trouve que le jeu vidéo a beaucoup apporté aux jeux de société, aux jouets, et aux jouets ER. Hein. Parce que, en fait, les adultes se sont mis à jouer, voilà, principalement, je veux dire, Candy Crush. Tout le monde a joué à Candy Crush sur son téléphone. Et les adultes ont retrouvé du plaisir à jouer, une activité complètement gratuite, libre.
Tout à fait. Qui n'apporte rien en particulier, si ce n'est d'être heureux, effectivement.
Exactement. Et donc, maintenant, on a quand même l'impression que les adultes osent un peu plus dire qu'ils jouent. Alors qu'il y a encore une vingtaine d'années, dire qu'on était joueur, c'était socialement très dégradant.
Sauf pour les collectionneurs, je pense aux collectionneurs de trains, par exemple.
Collectionner et jouer, c'est pas la même chose.
Oui, mais sauf qu'en réalité, derrière, les collectionneurs de trains jouent au train. Chez les adultes, il faut le reconnaître.
Après, peut-être qu'on peut faire une petite distinction entre jouer et se divertir. Ce serait peut-être pas non plus encore tout à fait la même chose, parce qu'il y a une part d'être actif dans le jeu que je ne retrouve pas toujours, en tout cas pas dans tous les supports que vous citiez. Il y en a probablement, hein, parce qu'il y a certainement des choses très intéressantes, mais il y a aussi maintenant une grosse tendance à se divertir sur des choses qui ne demandent pas vraiment ni d'effort, ni d'engagement, ni d'investissement, quoi.
Pourquoi c'est important pour l'enfant, pour la construction de l'enfant, de jouer, de manipuler, de construire ses histoires ? Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi, Elsa Job ?
Mais écoutez, on pourrait résumer ça en disant que tout comme c'est essentiel pour l'enfant d'avoir une alimentation variée pour construire son corps, son organisme, etc., c'est aussi important d'avoir un jeu varié pour construire sa pensée, on va dire, hein, sa pensée et donc aussi son langage. Hein, et son rapport aux autres, etc.
Et son imaginaire aussi.
Et son imaginaire, tout à fait.
La vie intérieure, un enfant seul dans une chambre joue avec tous les éléments dans l'environnement ludique qu'il a autour de lui, que ce soit les jouets, les jeux, etc., il construit son imaginaire, il invente des mondes, il invente des histoires, il développe sa réflexion, c'est très, très important.
Vous faites des études là-dessus pour mieux comprendre d'ailleurs comment fonctionnent les enfants ?
Moi non.
Les fabricants
sont toujours à l'écoute du marché, donc forcément ils regardent les évolutions, ils essaient de comprendre ce que le consommateur entre guillemets va chercher, que ce soit un enfant ou un adulte. Hein.
Et au-delà même de l'imaginaire, etc., hein, il y a tout l'aspect cognitif, hein, vraiment tout ce que l'enfant fait. Par exemple, je vais vous donner un exemple concret. Vous voyez, par exemple, pour un jour connaître les couleurs, il faut que l'enfant, par son jeu, ait eu besoin de regrouper des objets, de les mettre ensemble. Et c'est à ce moment-là qu'il aura besoin d'un terme qui va définir ces regroupements. Hein, et ça n'est pas en répétant des noms de couleurs par des jouets, etc.
La voiture jaune, il faut pouvoir la faire rouler, la toucher et prendre du plaisir.
Et il faut avoir eu beaucoup d'objets entre les mains, des jaunes, des rouges, des bleus, enfin vous voyez.
Alors vous restez avec nous, bien sûr on vous donne la parole les voisins et les voisines, puisque d'ailleurs, quel que soit votre âge, on s'autorise à jouer à quelques semaines de Noël. 33 1 84 22 71 71.
Coração, meu juízo, deixo brincando no meu paraíso. Você é meu sentido, coração. vestido, coração meu juízo. Deixa eu brincar no meu paraíso. Você é meu sentido, coração meu juízo. Deixa eu brincar no meu paraíso. Silêncio, preciso pensar. Não fale outra vez que vai ligar. A espera é dura, é chata, é tão ruim. O amor transforma ódio quando penso em mim. Silêncio, preciso pensar. Não fale outra vez que vai ligar. Não tem um dia que eu vivi pra mim. Melhor não insistir, alguém vai se ferir. Água, fogo, terra, mar.
Água, fogo, terra, mar, café préto chez 7 milliards de voisins sur RFI. On est en direct et à quelques jours de Noël, forcément, on s'interroge sur l'avenir des jouets. Le jouet doit-il se réinventer tant les écrans séduisent aussi beaucoup les enfants. Vous nous le disiez tout à l'heure, Elsa Job-Pijard et Johan Roussel et Stéphane Grandazzi. C'est vrai que à l'entrée au collège, on commence carrément à délaisser les jouets parce que le smartphone est arrivé, hein, que ce soit pour soi-même, dans la famille, etc. et que on a donc des jeux interactifs sur ces petits écrans assez facilement. Il y a le regard des autres aussi, alors qu'autrefois on jouait plus longtemps avec des objets. Vous nous expliquiez, Elsa Job-Pijard, l'importance aussi de se créer ces scénarios, ces histoires, développer l'imagination, comme nous le disait Stéphane Grandazzi. Alors vous, Johan Roussel et Stéphane Grandazzi, vous êtes très axés sur les jeux de société.
Oui.
Vous nous le disiez d'ailleurs, Stéphane Grandazzi, il y a un vrai renouveau des jeux de société. Moi, dans ma génération, c'est vrai qu'on a connu quoi ? Il y avait le Trivial Poursuite, il y avait de culture générale, hein, le Cluedo, les fameuses enquêtes policières. Il y avait évidemment le Monopoly, des jeux d'argent, de capitalisation. Mais il n'y avait pas beaucoup, beaucoup d'autres choses.
C'est d'ailleurs rigolo parce que les trois jeux que vous avez cités sont édités et fabriqués par la même entreprise américaine.
Et alors aujourd'hui, alors finalement, quel est l'espace de créativité des jeux de société selon les cultures, les pays qui les créent d'ailleurs. Vous appartenez à un groupe
finlandais. Les pays nordiques. Je ne sais pas, peut-être Yann peut en parler mieux que moi, mais je pense qu'il y a effectivement des types de jeux différents en fonction des cultures. C'est évident, hein, c'est un produit culturel, le jeu de société. Donc forcément, la culture dont vous êtes issu a un impact. Après,
et à quoi vous pensez là quand vous dites parce que vous voyez nous on n'a pas le sentiment à part.
Je vais parler un peu des bon après sur les jeux pour les enfants, on va dire dans le monde occidental c'est plutôt homogène. Mais là où ça commence à diverger, c'est vraiment sur les jeux ado-adultes ou jeunes adultes où là on voit des tendances. Alors je vais parler pour le monde occidental que je connais. Après non, je connais moins la culture asiatique sur le jeu, mais sur le monde occidental, on voit des tendances différentes. Par exemple, les jeux inventés par les auteurs américains vont être plus dans la confrontation, la conquête, l'impérialisme, en fait, hein, si on y réfléchit.
Avec beaucoup de matériel,
voilà,
beaucoup de matériel,
de règles,
d'exceptions.
Voilà. Les jeux allemands...
Jeux de société, beaucoup de matériel, ça veut dire quoi quand même? Un jeu de société, en général, ça tient dans une boîte, hein, on ne parle pas de jeux vidéo.
Alors, en fait, ça veut dire beaucoup de figurines, typiquement. Ce qui arrive beaucoup en ce moment, c'est des jeux avec des figurines, donc des petits personnages, marrant. Hein. On revient à l'époque des personnages en plomb, maintenant ils sont en plastique, c'est plus facile à fabriquer. Mais effectivement, il y a de plus en plus de jeux dits à l'américaine.
Ouais. Donc il y a un grand carton qu'on étale, en général.
Un grand carton, voilà, il fait 50 cm de long, donc une belle boîte, avec beaucoup donc, de matériel dedans, des brouettes de dés, des feuilles, des papiers, des crayons, il y a tout.
C'est américain, quoi. Ouais.
Et les autres cultures?
Si on prend les jeux allemands, par exemple, ou on va dire de la sphère germanique, il y a beaucoup de jeux de gestion.
Oui.
C'est vrai. Jeux de gestion, de calcul, d'optimisation,
voilà, des fois très froid.
Un peu froid, mais on a...
À quoi vous pensez, par exemple?
Oh, je ne vais pas citer de nom, parce que je connais trop d'auteurs de jeux pour,
c'est ça, pareil,
pour citer. Mais vraiment, si on prend les jeux... On va dire, à un moment, il y avait une école italienne, un peu dans les années 2000, 90-2000, où il y avait beaucoup plus de jeux un peu plus artistiques, un peu plus d'ambiance, etc. L'école française sur les jeux de société est un peu à la croisée des chemins, hein, comme c'est souvent le cas en France. On est un pays carrefour, donc ça se ressent aussi dans le jeu de société. Donc ouais, on voit vraiment que le jeu est un produit culturel et que donc les cultures dont il est issu ont une influence sur ce que produisent les auteurs de jeux.
Et en même temps, ce sont des jeux qui sont destinés à s'exporter par définition.
Oui.
Oui, bien sûr. Bah, c'est le but de tout auteur et éditeur, c'est d'arriver justement
à... Qu'est-ce qui fait qu'un jeu de société cartonne?
Bah, si on le savait.
Va durer sur plusieurs dizaines d'années. Simple.
Si on le savait, on serait en train d'inventer.
Par exemple, le Cluedo, bon, je ne parle pas du Monopoly, bon, mais le Cluedo, ah, savoir qui a assassiné...
Là, on parle de choses très différentes, c'est-à-dire qu'on parle de jeux qu'ont passé une génération. À partir du moment à partir du moment où un jeu a passé une génération, c'est papa qui va expliquer à l'enfant, le jeu, il ne mourra plus jamais, enfin...
Ah oui.
Exagère un peu,
ouais,
mais ça devient un classique.
Voilà, c'est devenu un classique et donc il repasse en boucle de génération en génération.
Et pour les nouveaux qui arrivent sur le marché,
c'est là justement toute la difficulté.
Qu'on va séduire les enfants.
C'est là toute la difficulté. Il faut arriver au bon moment avec le bon produit. Alors là, je vais
s'inspirer de l'ambiance, de l'air du temps, de.
Il n'y a pas de recette miracle, parce que si elle était connue pour créer un bon jeu de société, on serait tous auteurs de jeux. Non, il n'y a pas de recette miracle, mais après, on est dans un marché de l'offre aussi sur le jeu de société depuis au moins une décennie à peu près. Et on voit qu'en Europe et aux États-Unis, mais c'est le cas aussi pour le Japon, la Corée, etc., hein, on a vraiment une offre pléthorique de jeux de société.
Il faut bien comprendre qu'en France, il y a plus de 1000 jeux de société qui sortent par an.
C'est énorme, la concurrence est folle et il y a une énorme créativité. Vous, le best-seller de votre marque, Stéphane Grandazzi, c'est le Molki. Vous pouvez nous dire juste en deux mots à quoi ça consiste.
On parlait de culture, donc là c'est un jeu finlandais.
Il est fabriqué en Finlande.
Donc,
oui,
on est fabriqué en Finlande. On est un des rares à avoir gardé nos outils de fabrication.
Donc il y a du bois.
Oui, c'est que du bois et on lance une bûche sur des bûches. Donc la Finlande est un pays couvert de forêts à 90%. Donc on a un jeu de bûcherons. C'est logique. Donc voilà.
Est-ce que ça peut séduire des petits Américains, ça?
Ah mais bien sûr, oui. Ça a séduit les petits Français par millions. Maintenant on l'exporte dans 60 pays dans le monde.
Et où est-ce que ça marche le mieux?
En France. Pour l'instant.
Ah ouais. Et le jour où on n'aura plus de forêt, ça ne marchera plus?
Non, mais je vous rassure, c'est des forêts éco-gérées. C'est fabriqué en bouleau.
Et pourquoi c'est en France que ça marche le mieux?
Alors pourquoi est-ce que le Molki a cartonné en France? Ça fait 10 ans que je me pose la question. J'ai quelques éléments de réponse. Bon, déjà, on a beaucoup travaillé pour le lancer. Ça, c'est pour m'envoyer des fleurs. Et puis ensuite, je pense qu'on avait la culture en France des jeux d'adresse traditionnels. Je pense au Palais Vendéen, au Palais Breton, à la boule, à la pétanque, à la boule lyonnaise. Enfin, il y en a des dizaines de variations. Donc, lancer un objet sur d'autres objets pour suivre une règle de jeu, on connaissait ça dans notre culture depuis des siècles presque. Et donc là, on a quelque chose d'exotique qui arrive, qui reprend un peu ces concepts-là, qui amène une mécanique particulière, parce qu'il y a du calcul, il y a une stratégie dans le jeu. Et du coup, ça a pris très vite, comme une traînée de poudre. Mais il y a d'autres pays où ça commence à émerger. Hein. Après, on va laisser passer des joueurs.
Non, puis c'est très convivial. C'est vrai qu'on l'a beaucoup vu sur les plages. On l'a beaucoup vu, ça remplace un peu la pétanque dans les apéros.
Oui, c'est transgénérationnel en plus.
Voilà, c'est
vous restez avec nous. Vous pouvez continuer de nous appeler, bien évidemment, les voisins et les voisines, au 33 1 84 22 71 71. Dans quelques instants, on donne la parole à l'ONG Social Change Factory à Dakar avec Abdou Touré qui lance un jeu de société tournée vers la jeunesse et la citoyenneté.
Wow. 7 milliards de voisins, c'est maintenant.
Place au jeu, place au jouet. On est en ligne avec Abdou Touré de l'ONG Social Change Factory. Bonjour Abdou Touré.
Bonjour Emmanuel.
Votre ONG, elle est bien connue au Sénégal, voire même dans la sous-région. Les actions de Social Change Factory sont tournées vers la jeunesse, vers la citoyenneté. Et votre ONG a lancé pour les fêtes un jeu de société qui s'appelle en Wolof Yamagenoram, c'est bien ça? Yamagenoram? Est-ce que je le prononce bien déjà?
Oui, tu prononces bien, c'est Yamagenaham.
C'est ça. Qu'est-ce que ça signifie?
Yamagenaham signifie « t'en sais plus que moi ».
C'est ça, en Wolof. Tu en sais plus que moi. Donc, c'est un jeu quiz avec des cartes qui permet de découvrir la culture au Sénégal, mais pas que.
Oui, pas que la culture. Il y a plus de 10 thèmes dans les cartes. Il y a l'environnement, la sécurité, l'hygiène, la santé, les sciences et les technologies, l'histoire, géographie, les découvertes. Oui, voilà.
Et on peut y jouer à partir de quel âge?
On peut jouer à partir de 7 ans. à partir de 7 ans, 8 ans, on peut commencer à jouer. Et c'est ouvert à tous les âges. Il y a différents niveaux dans le jeu, 8, 10 ans, 10, 13 ans, 13, 16 ans.
Avec des difficultés qui changent. Quel genre de questions on trouve, Abdou?
Supposons, je vous donne un exemple sur les questions de découverte.
Oui.
Je vous donne une question. Où se trouve le cimetière des tirailleurs? Je vous donne trois possibilités, à Wakam, à Rufisk ou à Tiaroy.
Oui.
Et toujours, la bonne réponse est en surbrillance,
oui,
en couleur verte ou rouge.
Oui.
Supposons sur les sciences et technologies, il y a une question que j'aime beaucoup. Qu'est-ce qu'un drone?
Qu'est-ce qu'un
drone?
Oui, un drone.
Voilà, et tu as trois réponses possibles, et trois réponses qu'on offre, mais dans ces réponses, il n'y a qu'une seule réponse qui est juste.
Oui, mais alors ça veut dire, donc c'est du QCM, hein, c'est du choix multiple. Qu'est-ce que ça a de différent par rapport à des jeux qui existent déjà, je pense à un jeu mythique comme le Trivial Pursuit. Là, ça se joue en équipe. Qu'est-ce que vous avez voulu montrer par ce jeu, Abdou Touré?
Vous savez, Emmanuel, notre génération a eu un déficit. Nous sommes restés longtemps sans avoir des jeux vraiment éducatifs. Nous avons trouvé des guitares, nous avons trouvé des voitures, nous avons trouvé des robots, nous avons trouvé d'autres games comme les PlayStation et autres. Mais en réalité, on ne trouve pas de jeux éducatifs sur le marché sénégalais.
Corrélé à l'histoire, à la culture sénégalaise.
Oui, oui, voilà. Même à la culture africaine. Hein,
oui, oui.
Parce que c'est toujours pour les filles.
Oui. Vous avez commencé à distribuer ce jeu gratuitement dans des écoles parce que vous êtes soutenu par des organisations internationales, mais il est également vendu, on peut le trouver à Dakar à partir de ces jours-ci?
Oui, en effet, il est possible de trouver ce jeu à partir d'aujourd'hui même dans certaines grandes surfaces. La distribution continue durant toute la semaine et les semaines à venir. Et aussi, durant ce week-end, il y a le Salon international du jouet éducatif et de la poupée noire de Dakar, 15-16 décembre, à la place du souvenir africain à Dakar. Il est possible de trouver nos amis, nos collègues là-bas. Il est possible d'interagir avec eux, de tester le jeu. Quand les parents viennent avec leurs enfants, ils peuvent essayer, jouer avec eux, tester, et voir réellement ce que propose Yamagana Kham et sa différence par rapport à d'autres jeux.
Et vous avez le sentiment aujourd'hui, vous avez déjà les premières réactions des parents, puisque ce sont les parents qui l'achètent, hein, s'il n'est pas distribué dans les écoles. Vous avez le sentiment qu'il y avait vraiment une attente là-dessus, sur que d'un jeu comme Yamagana Kham qui propose vraiment un vrai jeu adapté à la culture locale?
Oui, nous avons beaucoup de retours parce que nous avons commencé à concevoir ce jeu depuis plus de 6 mois. Et entre-temps, nous avons fait 2 mois de tests dans des écoles, dans des espaces publics, avec des adultes dans les bureaux et autres. Mais beaucoup de parents nous disent, mais c'est vraiment super, la façon dont vous pouvez faire le jeu à la maison, ou bien d'autres jeux maintenant. Il y a Yamagana Kham qui arrive, ça nous permet d'interagir avec nos enfants. Et des parents nous disent qu'eux-mêmes, ils trouvent des questions et des réponses qu'ils n'avaient jamais su avoir les réponses parce que ça ne les a jamais traversé la tête. Ils ont eu des compétences, ils ont appris à l'école, mais ils sont passés rapidement sur la culture générale, sur l'histoire, sur beaucoup de choses. Ce sont des choses qui manquaient carrément dans leur environnement.
Merci beaucoup Abdou Touré en tout cas d'avoir été au téléphone avec nous, ONG Social Change Factory. Donc Yamagana Kham, on le retrouve dans les chaînes de supermarchés à Dakar et dans les grandes villes, épiceries, etc. Et puis surtout, on peut aussi l'acheter en e-commerce sur internet en allant sur le site de Social Change Factory. Merci et très bonne journée à vous Abdou Touré.
Emmanuel, merci à tous les amis qui sont là-bas et à tous ceux qui nous écoutent. Et je souhaite bon courage à nos équipes qui sont dans le sud du Sénégal, à Kédougou, Sédiou, Tamba, et Fatigue, qui sont en train de distribuer le jeu, mais gratuitement. Parce qu'il faut dire aux auditeurs sénégalais que le fait d'acheter dans les grandes villes sénégalaises de jeux, ça contribue à pouvoir éditer beaucoup plus de jeux pour l'accessibilité de ce jeu au plus, à plus de jeunes, parce que beaucoup d'enfants n'ont pas les possibilités de s'offrir des jeux. Actuellement, c'est ce qu'on va faire. Nous allons tout faire pour mettre ce jeu à disposition dans toutes les régions du Sénégal, et même pour les enfants les plus démunis qui sont dans les familles démunies ou bien...
Eh ben, le message est bien passé. Donc, hein, si on offre ça et qu'on met ça sous le sapin, on offre ça pour les fêtes de fin d'année à ses enfants. En même temps, on permet à d'autres enfants de pouvoir jouer. Et c'est ô combien important, Elsa Job-Pijard. Quel est votre regard, vous, d'orthophoniste, qui travaillez beaucoup sur le rôle essentiel du jeu dans la construction de l'enfant, sur l'aspect culturel des jouets? Qu'est-ce que vous en pensez?
Ben, je pense que de toute façon, à travers les cultures, on voit bien le point commun qui est le nécessaire besoin d'échanger, d'être en interaction. Hein, là, on l'a bien entendu aussi chez cet auditeur, quel que soit le support, je pense que hein, y a tout ce rôle de sociabilisation, d'échange qui sont vraiment nécessaires. C'est un petit peu le propre de notre condition d'humain, quoi.
Johan Roussel, vous diriez vous aussi que les enfants aujourd'hui, alors est-ce qu'on recherche, les enfants recherchent parfois d'entrer dans un monde complètement imaginaire qui n'a rien à voir avec leur monde, ou au contraire ils ont besoin de repères quand ils choisissent des jouets?
Alors bien souvent, pour reparler du jeu de faire semblant, c'est reproduire en fait leur vie quotidienne, ce qu'ils voient, et ça, un enfant va reproduire autant de fois qu'il sera nécessaire pour qu'il comprenne bien la situation. Oui. Typiquement, l'enfant qui prend une poupée, qui la met dans son berceau et qui la bouge, qui la berce, tant qu'il n'a pas assimilé ça complètement comme un acte du quotidien, ben, il va le refaire. Et, voilà. Et à un moment, il n'a plus besoin de le faire parce qu'il a bien compris ce que c'était, il passe à autre chose.
Ouais. Alors, quand vous parliez des jeux de société tout à l'heure, est-ce que les jeux de société sont sortent du débat qui monte ces dernières années sur le fait que le jouet est encore très relié à l'appartenance fille-garçon, les voitures pour les garçons, les poupées pour les filles, même si c'est en train de changer. Mais enfin, du côté des fabricants, on observe bien que quand même les politiques marketing, les emballages et tout, ça bouge pas beaucoup. Hein. Le jeu de société, vous échappez à ça?
Le jeu de société est plutôt à l'abri de ça, parce que il y en a certains qui peuvent être genrés, mais la plupart des jeux de société, comme leur nom l'indique, sont faits pour être joués en société.
Ouais, c'est ça.
Et dans une famille, la société...
C'était le cas du jeu sénégalais, là.
Oui, et dans une famille où on joue, la société, de base, elle est mixte, déjà. Donc, quand vous jouez aux petits chevaux, c'est pas genré. Quand vous jouez... je sais pas, moi, à la belote, c'est pas genré. Quand vous jouez au Monopoly, c'est pas genré, etc. Donc, non. Enfin, moi, ce que je vois du jeu de société, c'est qu'on est, parmi les catégories les plus à l'abri de cette polémique, sur laquelle je ne prendrai pas parti. Et par contre, pour les jeux, comme les Ivan, pour les jeux d'imitation, de reproduction, etc., genre jouer à la marchande, mais il y a pire. Hein. Oui, là, ça reste très genré. Un truc tout bête, vous avez déjà vu dans les rayons d'un
hypermarché
de jouets.
C'est étonnant d'ailleurs, hein, parce que pourquoi ça serait une femme qui serait une marchande?
Ah non, mais c'est culturel encore. Hein, c'est
s'occuper des bébés.
Voilà. Oui, bon, ça, d'accord. Mais jouer à la marchande, c'est vrai que quand on y pense.
Il faut voir un centre de loisirs ou une classe venir dans une ludothèque et un petit garçon qui commence à jouer avec une poupée, il faut voir le comportement de l'adulte à côté, quoi. On a eu beaucoup d'instituteurs ou d'accompagnateurs ou voilà qui sont allés le voir en disant mais attends, tu veux pas plutôt jouer au circuit ou aux voitures? C'est très 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 fréquent. Et pourtant,
les stéréotypes culturels mettent plusieurs générations à changer de toute façon.
C'est bien un papa qui s'occupe de son enfant.
Oui, c'est ça, un petit garçon qui joue à la poupée, qu'est-ce qu'on peut répondre là-dessus?
Écoutez, moi, je pense qu'il faut surtout regarder le jeu en lui-même. Parce qu'en vérité, le jeu, je le répète, ça n'est pas cantonné à l'objet.
Non, mais attendez, surtout, il faut peut-être quand même dire aux auditeurs, un petit garçon qui joue à la poupée, il n'y a pas de problème.
Tout à fait.
Non, quand même.
Voilà. Non, il n'y a aucun problème, évidemment. Et ce qui compte beaucoup, c'est ce que vit cet enfant à ce moment-là. Effectivement, je partage... La mère constat de Johan, bien sûr que déjà, on n'arrête pas
un enfant dans son jeu.
Vous êtes
catastrophée par les réactions des adultes quand les enfants jouent. J'ai l'impression de...
C'est un acte naturel, le jeu. Et à partir du moment où quelqu'un vient interrompre un jeu pour donner sa règle, ben c'est...
Non,
c'est...
Ou son interprétation, alors que l'enfant est en train de vivre quelque chose qui est très important pour lui. Hein, et c'est pour ça que je dis qu'il faut apprendre aux adultes à ne pas s'arrêter à l'objet en lui-même et à faire confiance à tout l'engagement de l'enfant à ce moment-là, hein, qui est très important.
Vous nous appelez au 33 1 84 22 71 71. On parle des jouets aujourd'hui et des jeux d'ailleurs plus largement. Et on attend vos appels. Bernoft chez 7 milliards de voisins humanoïdes. On parle des jouets. Alors, je vous repose la question. Depuis qu'on a commencé l'émission, les jouets vont-ils disparaître au profit des écrans? Vous avez beaucoup dit que c'était en train de cohabiter. Mais finalement, Johan Roussel, aujourd'hui, comment vous voyez l'avenir du jouet?
Alors, en fait, non, le jeu vidéo va pas prendre la place du jeu de société ou du jouet. Le truc, c'est par contre, quel place, quel temps l'adulte va accorder à son enfant pour jouer, parce qu'en fait le jeu vidéo c'est juste un repli sur soi parce qu'on n'a pas de partenaire bien souvent. Un jeu de société ça se fait en famille et pour pouvoir faire un jeu de société il faut être plusieurs. Voilà.
Il y a quand même des jouets qui sont faits pour jouer seul.
Bien sûr. Ben ça, c'est donc le jouet par rapport à la différence par rapport au jeu. Mais il y a, enfin, encore une fois, les enfants, surtout pré-collégiens, continuent à jouer énormément. Le Playmobil vit de très beaux jours, hein, il n'y a pas de souci.
Lego a eu quelques difficultés. Alors, c'est vrai qu'on a dit que le marché du jouet en France s'était un petit peu contracté au dernier trimestre 2017. On a dit que le jouet avait raté son Noël. Oui, ce sont les professionnels qui disent ça.
C'est vrai que le marché du jouet global, hein, qui comprend le jeu et le jouet, c'est un marché pour la France qui est assez étal. Il a parfois des petites hausses de 1-2%, parfois des petites baisses de 3%. Là, cette année 2018, la baisse devrait s'accentuer un petit peu, mais c'est surtout parce qu'on a un changement des modes de consommation des familles, et donc on a des grosses difficultés du magasin de jouets traditionnel.
Qui font faillite, grosso modo, Toys R Us, ça va très mal.
La plupart des jeunes parents, etc., n'achètent pas les jeux et les jouets comme ils les achetaient il y a 10 ou 20 ans. Donc la distribution doit se transformer. Ce qu'elle fera, avec perte et fracas ou pas, on verra bien.
Pour un enfant, c'est la même chose d'aller dans un magasin de jouets ou de découvrir des nouveautés, des jouets sur Internet.
Le souci aujourd'hui, c'est que vu l'éclatement des zones urbaines, la plupart des enfants, ils ne peuvent pas aller au magasin de jouets tout seuls. Moi, j'habitais dans une petite ville de banlieue très proche de Paris, dans ma petite ville, hein, Le Valois, pour ne pas la citer. Quand j'étais gamin, il y avait trois marchands de jouets où je pouvais aller le mercredi après-midi tout seul à pied. Il n'y en a plus aucun des trois qui existe. Et si on prend les villes de plus grande banlieue, il faut forcément la voiture de papa-maman. Donc oui, les modes de consommation...
Ouais, c'est incroyable ce que vous dites. Effectivement, on ne s'en est pas vraiment rendu compte, mais le jouet n'est plus à portée de découverte pour l'enfant.
Ben non.
Sauf
vous
sur Internet.
Vous ne pouvez pas aller dans une grande surface de périphérie tout seul quand vous avez 8 ans.
Ouais.
et voilà. Mais bon, après, ça ne veut pas dire que jouer diminue. C'est juste la mode de distribution de consommation qui se transforme. Et oui, bien sûr, le e-commerce prend des parts de marché là-dessus. Mais ce n'est pas valable que pour le jeu et jouet, c'est toute notre société qui est transformée par la consommation digitale.
Elsa Job-Pijard, on n'est pas obligé d'acheter des jouets pour avoir des jouets à la maison, on est bien d'accord?
Tout à fait, on peut en construire soi-même, on peut jouer même sans objet, on peut inventer, créer ensemble, recycler. Hein. Nous, dans notre association Joue, Pense, Parle, on est vraiment beaucoup pour détourner les objets de leur fonction.
Il y a une idée sur le site internet tous
Alors,
les jours en ce moment?
En ce moment, il y a une idée chaque jour. Oui, on a fait un calendrier de l'Avent où le cadeau qu'on s'offre chaque jour, c'est de passer un moment, parents-enfants, ensemble. Alors, les week-ends et les mercredis, ce sont plutôt des choses à construire. Hein. On a eu, par exemple, une expérience qui a beaucoup plu, c'est prendre une boîte à chaussures, par exemple, la percer de petits trous jolis qui font des dessins, mettre à l'intérieur son téléphone en lampe torche, éteindre la lumière et observer ce qui se passe avec un enfant, puisqu'on a quand même, on voit sur le terrain que, je rejoins vraiment Johan, il y a une perte de temps pour le jeu, les découvertes toutes simples. Hein, et donc j'espère que le jeu ne disparaîtra pas. Je pense vraiment que c'est ce qui fait de nous des humains. Quoi.
Une dernière idée pour la route?
Bah écoutez,
pour Noël,
il y en a une vraiment chaque jour sur notre site, donc c'est gratuit, on peut aller consulter des fiches qui sont très pratiques. Il y avait par exemple des jeux à base de devinettes, par exemple, qui là ne nécessitent pas du tout d'objets. Aujourd'hui, vous pourrez voir, c'est une fiche où il y a un renne à découper avec un nez à lui poser au milieu du visage, les yeux bandés, donc interagir avec son environnement, quoi.
Bon, les garçons, quand même, ça continue d'aimer tout ce qui roule. Hein.
Oui, mais oui.
Donc, les filles aussi,
les filles aussi aiment bien les toboggans à billes, on en parlait d'accord. Tout à l'heure. Ouais. Oui, oui.
Et d'ailleurs, et les jeux des cours de récré, d'ailleurs, qui sont des jeux tout à fait unisexes, les billes reviennent en force.
Oui.
Oui.
Donc, des jouets très simples, en fait. Hein.
Oui, souvent le plus simple, c'est le mieux. Hein.
Ouais.
Quand on joue, je rejoins ce que vous disiez. L'activité de jouer, elle peut se faire sans aucun. Je devrais pas dire ça alors que je devrais quand je jouais, mais on peut très bien jouer sans avoir aucun produit manufacturé pour ça. Si on prenait l'exemple de votre interlocuteur, de votre auditrice en Afrique au début de l'émission, on voyait que ces enfants passaient peut-être plus de temps à jouer que des petits Européens, et pourtant ils n'avaient pas la même société de consommation.
Et typiquement, en Afrique, un des jeux traditionnels, la Wélé, qui est le plus connu, se joue aussi en faisant des trous dans le sable et avec des cailloux, des coquillages, voire des crottes de lapin.
Et exactement, il peut effectivement
et on voit
se
que c'est
fabriquer très facilement.
Le principe de la Wélé, c'est quand même de répartir les graines entre les différents agriculteurs.
Hein. Voilà. Eh bien, écoutez, on a presque fait le tour de la planète des jeux. Hein. Merci à vous, Elsa Job-Pijard, orthophoniste, association Joue, Pense, Parle. Et sur le site de l'association, donc, on trouve une idée par jour en ce moment pour faire du jeu, jouer avec ses enfants. Johan Roussel, merci à vous, l'association à l'adresse du jeu. Et merci à vous Stéphane Grandazzi de Tactique France. Merci aussi à toute l'équipe, Sigrid Azeroual, Delphine de Dianous, Romain Dubrac, Didier Cherouz. Bien sûr, vous pouvez réécouter toutes nos émissions sur l'appli RFI Pure Radio en podcast et nous retrouver sur les réseaux sociaux. Demain, 7 milliards de voisins, ça sera moins ludique. Conflit de voisinage et méchanceté ordinaire. Comment se prémunir? Ça sera la cour de récréation, mais version adulte. Merci à vous tous, les voisins, de votre fidélité. À demain, en direct, comme chaque jour de la semaine.